Un quart de siècle après son accident mortel le 1er mai 1994, le mythe Ayrton Senna perdure. Secret, intense, parfois mystique, ce seigneur de la Formule 1 a autant marqué les esprits pour son talent surnaturel que par sa personnalité hors norme. Pendant près de 15 ans, le journaliste Pierre Van Vliet a couvert les exploits du pilote brésilien, mais il a également été le témoin de sa vie hors des circuits. Aujourd'hui, il retrace l'itinéraire du triple champion du monde dans une série de podcasts qui vous emmène de Sao Paulo à Imola en passant par Monaco et Suzuka. Dans les pas d'Ayrton Senna, un récit de Pierre Van Vliet et Andy David, voix off Marie Lizac, son Romain Rivreau. Épisode 3, Ketteringham Hall, les années Lotus.
D'ordinaire, les écuries de Formule 1 développent leur monoplace dans un hangar anonyme, quelque part dans une zone industrielle anglaise. Mais chez Lotus, il n'était pas d'usage de faire comme tout le monde. Son fondateur et maître à penser, Colin Chapman, transforma radicalement la discipline en y introduisant les sponsors et les ailerons. Il avait également acquis ce manoir, situé à quelques kilomètres de Norwich, pour en faire son quartier général. C'est son successeur à la tête du team Lotus, Peter Ware, qui accueille Ayrton Senna en ses lieux. À quelques mètres de là, les ingénieurs conçoivent les pièces, dans des anciennes écuries, avec vue sur les tourelles, les créneaux et les vitraux. Pierre Van Vliet, après avoir quitté Tolman, Ayrton Senna rejoint Lotus. Comment s'effectue ce transfert et quel est alors le statut de cette écurie?
Alors, Lotus, c'est un team de pointe, c'est un team prestigieux dans le sens où le team Lotus, c'est Colin Chapman, c'est Jim Clark, c'est l'équipe qui a dominé les années 60, un peu moins les années 70, même si ils ont encore été champions du monde à plusieurs reprises. J'ai presque envie de dire que le statut d'Ayrton aussi commence à prendre forme. La preuve, c'est que ce transfert a été très chaotique. Parce qu'avec Tolman, ça s'est mal passé à l'été 84, notamment avec cette histoire de changement de manufacturier de pneus, etc. Ayrton a été un peu critique. Et puis surtout, les pourparlers avec Lotus sont apparus au grand jour. En tout cas, je me souviens, c'était à Zandvoort, je crois, où Oakridge se rend compte que un Peter Ware courtise Senna et qui pourrait perdre Senna alors qu'il a un contrat de 3 ans et qu'il est sûr de son coup, Oakridge. Mais Ayrton, lui, il a bien compris que chez Tolman, il n'avait pas d'avenir et que, au diable, les contrats, Lotus allait se débrouiller pour, sinon casser son contrat, le racheter ou trouver la faille juridique. Enfin bref, chez Lotus, on voulait Senna, alors qu'ailleurs, de nouveau, le marché ne laissait pas vraiment d'ouverture. Et donc voilà Ayrton chez Lotus. Mais Senna, enfin Tolman, ils sont tellement fâchés, enfin Oakridge, qu'il le suspend pour le Grand Prix d'Italie à Monza. Donc Ayrton ne court pas le Grand Prix d'Italie 84 à Monza. Il est puni. Et ils mettent Pierluigi Martini, je crois, dans la voiture, qui est à la rue complet, enfin peu importe. Et puis Ayrton revient dans l'auto pour les deux derniers Grands Prix. Je crois que c'est Grand Prix d'Europe à Brands Hatch et puis Grand Prix du Portugal, Estoril. Et les deux fois, il est sur le podium, quoi, avec une Tolman. Alors là, je peux vous dire que c'était très symbolique quand même de cette montée irrésistible, du jeune premier qui arrive.
Dans le début 85, il effectue ses premiers pas au volant de la Lotus et dès le deuxième Grand Prix à Estoril, il remporte sa première victoire en Formule 1.
Oui, et là de nouveau, c'est la pluie qui fait la différence. Et c'est une pluie, alors c'est comme à Monaco, sauf qu'on est sur un circuit plus traditionnel, donc on n'arrête pas la course. Mais il pleut, il pleut des cordes et la visibilité est vraiment nulle, donc c'est très dangereux. Peut-être davantage qu'à Monaco, parce que problème de visibilité. On va plus vite, Mais là, Ayrton, il démontre une capacité sous la pluie à aller plus vite, quoi. Et vraiment à tourner autour des autres, au point que, Patrick Tambay, l'anecdote est connue, qui est sur le podium d'ailleurs, mais qui termine à un tour avec la Renault. Ayrton a le même moteur Renault dans la Lotus. Et Patrick lui dit, aujourd'hui, il y avait un extraterrestre parmi nous, quoi. Il y avait donc E.T. Qui était devenu le surnom d'Ayrton dans l'équipe du lendemain par Johnny Reeve, qui ensuite avait trouvé cette ce pseudonyme, enfin ceci, Magic Senna, le côté le magicien de la pluie, Ayrton à Estoril. Et cette victoire là, elle est très symbolique, parce qu'il y a quand même toujours le regret de Monaco l'année d'avant, et la pluie quelque part vient à son secours. Alors la Lotus est très performante sur un tour avec le moteur Renault Turbo, hein, c'est l'époque des full boost en qualif, et Ayrton arrive à maîtriser ça et à tirer vraiment la quintessence de l'auto le samedi. En revanche, en course, bon, ben la fiabilité n'est pas là. Chez Lotus, on est quand même un petit peu en fin de règne. Enfin, Colin Chapman n'est plus là. On se réorganise, c'est un peu parfois un peu, je vais dire, chaotique. Même si collabore avec Gérard Ducarouge, avec quelques personnages, qui ont ce sens de la course et qui apprécient l'extraordinaire obsession du bonhomme à aller chercher dans les moindres détails ce qui peut faire la différence. C'est valable pour les gens des moteurs, des pneus, etc. Tout le monde vous en parle en disant Senna, c'est un extraterrestre, pas seulement sur la piste, mais aussi c'est le dernier qui reste au circuit le soir et qui coupe les cheveux en quatre avec tous les techniciens. Et donc la victoire à Estoril, c'est un soulagement, quoi. C'est vraiment, il est conscient là que voilà, il va gagner des grands prix, il va faire une belle carrière. Et puis le Portugal, c'est son deuxième pays quelque part. Il y a beaucoup d'amis qui sont là, la famille est là, Senhor Milton, le père est là, son frère est là. Donc voilà, c'est quand même cool, c'est une très belle victoire. Et il y en aura d'autres, mais voilà, la Lotus c'est quand même pas, je crois qu'il gagne à Spa cette année-là aussi avec un petit aide du ciel, comme c'est souvent le cas en Belgique, mais il s'installe à ce moment-là comme, voilà, un acteur incontournable des Grands Prix.
À ce moment-là, est-ce que tout le monde sait qu'il sera champion du monde ?
Oui, tout le monde se doute qu'un tel talent demande peut-être encore à être un peu policé, mais un tel talent ne peut pas ne pas être champion du monde. Un petit détail près quand même, c'est qu'à l'époque le sport reste dangereux, et que voilà, un tel talent aussi, parce qu'il avait un côté prise de risque parfois un peu extrême, donc la fougue de la jeunesse sans doute, mais bon, on sort de la mort de Gilles Villeneuve, il y a eu l'accident de Paletti, il y a eu l'accident de Didier Pironi, etc. Elio De Angelis, qui est l'équipier d'Ayrton chez Lotus la première année, il se tue quelques mois plus tard avec la Brabham. Alors ça se passe au Castellet en essai privé, donc il y a peu d'impact, je dirais, médiatique, mais il y a un énorme impact chez les pilotes eux-mêmes et chez Ayrton en particulier, parce que Elio, c'était son camarade d'écurie pour sa première saison chez Lotus, et donc il est fort touché par la mort d'Elio. Et voilà, il commence quand même à se rendre compte qu'il faut garder parfois une petite marge de manœuvre quand il y en a une.
1987 marque un tournant pour Lotus et Ayrton Senna. La monoplace noire et or devient jaune, et le V6 Honda remplace le moteur Renault.
Oui, et puis c'est très important dans l'évolution de la carrière d'Ayrton, parce que c'est Honda plus que Lotus. Enfin, là, il y a suspension active, c'est une voiture qui est très sophistiquée techniquement, et Ayrton se délecte de cette capacité à trouver l'avantage, parfois unfair advantage, comme on dit en anglais. Mais la suspension active ne fonctionne pas partout, et le team Lotus n'est pas non plus la machine de guerre que pouvait être auparavant, ou que deviennent Williams ou McLaren à l'époque. Donc il se rend compte quand même qu'il faudra partir vers une de ces deux équipes-là, ou éventuellement Ferrari, mais avec le turbo à l'époque, c'est Honda qui commence à imposer sa supériorité. Et il se fait que Honda avec Lotus, ça marche pas assez bien, parce que voilà, le moteur vaut mieux que ça, et le pilote sans doute, et que l'équipe de référence, qui est Williams Honda en 87, là il se tire dans les pattes entre Piquet et Senna et Mansell, pardon, au point que, enfin, ils ont perdu le championnat 86 déjà, gagné par Prost, alors que la Williams Honda était largement supérieure. Et donc chez Honda, on n'aime pas, on essaye aussi de placer un pilote japonais, Satoru Nakajima, qui finalement atterrit chez Lotus, alors que chez Williams, on n'en veut pas. Donc, il y a une forme un peu d'arrogant chez Williams, et les Japonais finissent par briser le pacte et dire, quand Ron Dennis, qui lui a compris que Honda, c'était la machine, la motorisation à privilégier pour la fin de la décennie, eh bien, il se jette sur Honda, et au passage, il comprend bien que c'est l'occasion d'avoir Senna avec lui, parce que Senna a conquis les Japonais par ses qualités de guerrier. Et voilà, donc Piquet et Lotus et Williams bon, ben, sont passés relégués au second plan. Et c'est le boulevard, finalement, pour Senna et Honda chez McLaren. En partie grâce à Alain Prost, ce qui est quand même pas anodin, c'est que Prost a encouragé Ron Dennis non seulement à signer avec Honda, mais quand il a été question alors d'avoir Ayrton Senna comme équipier, Prost a dit mais certainement prenons ce qu'il y a de mieux pour l'équipe et y compris pour moi. Prost étant le professeur convaincu qu'il pouvait avoir le dessus, mais un peu là peut-être d'avoir des équipiers voilà qui étaient un peu des porteurs d'eau. Il y a eu Keke Rosberg en fin de carrière, il y a eu Stefan Johansson qui n'était pas au niveau. Donc Prost a encouragé McLaren à aller chercher Senna.